Eh bien, table ovale sans ellipse, table ovale sans ellipse à Villefranche-de-Rouergue, en CFM. Table ovale parce qu'à CFM, la table n'est ni ronde ni carrée, elle est ovale. Sans ellipse parce que j'espère que c'est le comportement de mes invités. Nous invitons donc tous les mois les représentants locaux des partis politiques nationaux. Aujourd'hui, nous avons Lionel Lacroix pour le Parti Socialiste, Laurent Tranier pour l'Union pour un mouvement populaire... Monsieur André Auty pour le Parti communiste français, Front de gauche, Emmanuel Brevet pour le Mouvement démocrate et Bernard Mort pour le Nouveau Centre. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est la médecine dans notre ruralité. Je dirais en premier lieu les hôpitaux de proximité. Et ma première question, c'est qu'attendent les habitants des hôpitaux de proximité? Et je ne me tournerai pas en premier lieu vers les professionnels, puisque j'ai oublié de signaler qu'il y avait deux médecins dans la salle, mais donc je vais demander aux plus jeunes, au pluriel, et donc je vais me tourner vers Monsieur Tranier déjà pour savoir ce que les populations dont il est attendent des hôpitaux de proximité.
Bonsoir à tous. Ce que les populations dans nos régions rurales attendent des hôpitaux de proximité tels qu'on les connaît à Villefranche-de-Rouergue, à Decazeville, à Rodez, en fait dans les villes principales, c'est d'abord qu'ils répondent aux attentes et aux besoins de santé courants. Et puis qu'ils apportent aussi des prestations de santé avec des niveaux de sécurité suffisants. Donc ils attendent des hôpitaux qui soient efficaces pour leurs besoins les plus courants et sûrs. Leurs besoins les plus courants, ce sont ceux qui ne nécessitent pas des spécialités extrêmement pointues qu'on trouvera davantage dans les CHU par exemple. Voilà en gros.
Alors, voilà en gros, mais la question c'est, bon, donc ils attendent pour les disciplines courantes, qu'est-ce que c'est qu'une discipline courante en milieu hospitalier? Et puis après, j'aimerais savoir aussi si véritablement les populations utilisent. Mais déjà, alors là, je vais me tourner vers les professionnels. Monsieur Brevet pour le Mouvement démocrate, c'est quoi les spécialités courantes qui doivent absolument être pratiquées dans les hôpitaux ruraux?
Eh bien, bonjour d'abord. La spécialité courante, c'est tout ce qui ne nécessite pas de plateau technique spécifique ou d'hyperspécialisation du médecin ou du chirurgien qui va intervenir. Si vous prenez la greffe rénale, par exemple, eh bien, ça ne se fera jamais ni à Villefranche ni à Rodez. Ça nécessitera un plateau technique particulier qui ne dépendra que des CHU, voire des CHR si les CHU disparaissent. Bien. Alors, la gastro-entérologie peut être pratiqué partout. Tous les gastro-entérologues savent faire des endoscopies. On n'a pas besoin d'aller au CHU pour faire une endoscopie, voire même on en arrive aux vidéocapsules, y compris dans les hôpitaux de proximité, comme à Rodez en fait. Je suppose qu'à Villefranche, ils doivent aussi en avoir.
Monsieur Lacroix.
Oui, bonsoir. On parle d'hôpital de proximité, mais je crois que déjà, pour nos auditeurs, il faudrait essayer de définir ou d'essayer de placer l'hôpital de proximité dans le système de santé publique français. L'hôpital de proximité, schématiquement, c'est celui qui se situe, et c'est le ministère de la Santé qui le définit, entre l'hôpital local, qui va simplement faire un diagnostic, il y en a très peu en France, et l'hôpital référent qui, comme il vient d'être expliqué, l'hôpital où on peut exercer des opérations spécifiques qui nécessitent des plateaux techniques particuliers. Donc l'hôpital de proximité, ça va être le maillon sur cette chaîne de santé publique, et un maillon qui est bien évidemment indispensable puisque c'est ce que nous sommes en train de discuter ce soir. Donc, les besoins sur cet hôpital de proximité, qui est le maillon indispensable, c'est le diagnostic, la prise en charge et la réfectation, le transfert vers des hôpitaux plus en capacité de pouvoir traiter les pathologies, les besoins des patients. Donc, le besoin de nos concitoyens, il est là. C'est diagnostic, prise en charge et affectation vers des hôpitaux plus spécialisés et plus propres à traiter la maladie du patient.
Monsieur Andretti, quelle idée vous faites de ce qu'espèrent nos concitoyens?
Premièrement, ce que je pense, tout un chacun, et en particulier les personnes fragiles, celles qui ont souffert ou qui ont à se remettre d'accidents, bon, peu importe, il est assez difficile de faire une liste complète, mais toujours est-il que ce qu'ils souhaitent, je pense, c'est ce besoin, ce sentiment d'être, de pouvoir être pris en charge assez rapidement. Il est exact que si l'on regarde toutes les spécialités, la maternité, la réanimation, etc., cela représente un grand nombre de cas et de praticiens. Alors, je crois qu'ils ont besoin de ce que jusqu'à présent on a pu vaille que vaille assurer, c'est-à-dire maintenir une structure qui, pour les besoins rapides, les accidents, puisse être au moins un lieu d'accueil médicalisé. D'ailleurs, les urgentistes eux-mêmes et je crois la fédération, la mutualité française avait, au moment de la loi 2007-2008, fait savoir que cette refonte et cette mise en cause des hôpitaux de proximité, je vous rappelle qu'il y a une carte qui a circulé et qu'elle est officielle, il ne devrait plus y avoir qu'un centre hospitalier par département, et donc public. Je crois qu'ils attendent de pouvoir être pris en charge rapidement dans des conditions satisfaisantes, évidemment, sachant que les affections de longue maladie, de longue durée, relèvent d'une autre réflexion.
Bernard Mort.
Bon, je remercie M. Andréotti d'avoir parlé des urgences, parce que je crois que ça, c'est un besoin important pour les populations, parce que les populations ont besoin d'ailleurs, le succès des urgences ne le dément pas, ayant des difficultés à trouver auprès des médecins généralistes un accueil pluridisciplinaire, c'est-à-dire que dès qu'il y a plus que des pathologies médicales, s'il y a des pathologies à composante chirurgicale, c'est sûr que le service des urgences est particulièrement bien formé. Et puis surtout, il y a un médecin, il y a une équipe médecin-infirmier 24 heures sur 24, jour férié comme jour de laborable. Donc ça, je crois que c'est une attente importante et c'est un réseau de soins qui a besoin de mailler de façon serrée dans le département, surtout dans notre population qui est clairsemée. Il y a une deuxième strate, c'est les pathologies fréquentes. Là, je donnerai comme exemple à Villefranche, on est service de référence pour le diabète. C'est une pathologie qui touche un nombre croissant de patients, et donc avoir un suivi plus important et, disons, pointu sur Villefranche, c'est intéressant. Et puis il y a un troisième étage, malheureusement. La vie va en augmentant et on a besoin de services de gériatrie, on a besoin d'un accueil pour les anciens qui soit digne et qui leur permette quelquefois de survivre après une attaque ou après un accident vasculaire dont on repousse l'échéance, mais on n'arrivera jamais à complètement éluder ça. Donc dans les hôpitaux de proximité, je pense que les urgences et les services de long séjour sont vraiment des choses qui sont importantes. C'est vrai que les services de pointe doivent être passer à des hôpitaux plus compétents, mieux équipés, avec plateaux techniques et praticiens.
Alors, si je vous suis bien tous, les hôpitaux de proximité, c'est là pour les urgences et le long séjour. Il me semble pourtant que ceux qui nous entourent, hôpitaux de proximité, font quelques autres choses. Et la question que ça m'amène, puisque vous semblez vous focaliser là-dessus d'une part, et d'autre part, quelle idée avez-vous de la confiance que font les populations aux hôpitaux de proximité au-delà des urgences ? Monsieur Lacroix, puisque vous sembliez...
Aujourd'hui, il y a 400 hôpitaux qu'on dit de proximité, et à ce qui a été dit tout à l'heure, il faut, je pense, rajouter les services qu'on dit classiques, à savoir, comme vous le soulignez, la médecine, la chirurgie, l'obstétrique. Effectivement, il faut avoir un service d'urgence qui soit la porte d'entrée, qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des services qui sont spécialisés en fonction des pathologies locales ou de... lié à l'âge, par exemple, comme ça a été souligné, mais aussi, et surtout, c'est le cœur, je pense, de l'activité d'un hôpital dit de proximité, c'est la médecine, la chirurgie et l'obstétrique.
Et c'est là que je pose la question, est-ce que vous avez testé, est-ce que vous connaissez l'indice de confiance de nos hôpitaux dans l'Aveyron, puisqu'on est dans l'Aveyron? Oui.
Oui, c'est certain que parmi les attentes de la population en termes d'hôpitaux de proximité, qui s'expriment même très concrètement couramment, il y a la maternité et la chirurgie qui va de pair avec la maternité. Pour ce qui est des indices de confiance, en fait, on peut dans certains cas estimer que les patients, choisissent. Et votent quelque part avec leurs pieds, là aussi, si on peut dire, en choisissant de se faire soigner dans certains hôpitaux ou d'accoucher dans certains hôpitaux plutôt que dans d'autres. Voilà. C'est un indice de la confiance ou de la réputation que les patients peuvent accorder aux établissements.
Et alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est...
Je regarde souvent les indices de confiance qui sont publiés dans les journaux. Je crois que c'est l'Express qui l'avait publié en premier. Régulièrement, il y a des indices de satisfaction et de sécurité au sujet des affections nosocomiales, ce qui est en fait le substratum de la confiance que peut avoir la population. Et je remarque que régulièrement, Villefranche sort très bien placée pour un hôpital, non CHU.
Il n'y a pas que Villefranche. Emmanuel Brevet, quelle idée vous avez de la confiance que font les gens à leurs hôpitaux de proximité?
La confiance...
En dehors des urgences, parce qu'ils n'ont pas le choix.
On peut l'estimer à la réputation qu'a un hôpital. Est-ce qu'il attire les gens? Est-ce que sur le marché, on parle en bien ou en mal de son hôpital? Sur Villefranche, je ne sais pas. Sur Rodez, de temps en temps, c'est un peu tendu. Mais des enquêtes de satisfaction, le ministère a essayé d'en lancer une, un peu maladroitement, puisqu'il devait fournir des fichiers non anonymisés à des sociétés que devaient rechercher les hôpitaux pour faire ces enquêtes. C'est tombé à l'eau. Donc, on ne peut se fier que sur les enquêtes qui sont menées à la sortie, où les patients remplissent, s'ils le veulent, un questionnaire. Malheureusement, c'est souvent un peu surfait, puisque seuls ne répondent que ceux qui sont satisfaits, les autres ayant peur, lors de la prochaine visite, de se voir infliger des représailles.
Alors cela étant, l'enquête qui devait être lancée, est-ce que quelqu'un autour de la table sait pourquoi ça a finalement échoué, ça n'a pas réussi?
Ça a échoué essentiellement pour un problème de confidentialité, puisque les données n'étaient pas cryptées, non anonymes. Donc la CNIL a mis son veto, et elle est suspendue pour le moment.
Bien. Oui.
Et vous avez raison de souligner cette disparité, parce qu'il y a hôpital de proximité et hôpital de proximité. Voilà, il y a ceux qui sont sur une dynamique positive. On peut prendre l'exemple de l'hôpital de Villefranche qui a bonne réputation dans la ville, qui a cru et qui s'est équipé depuis 20 ans de façon spectaculaire. Je crois que ses effectifs sont passés sur cette période de 400 à 800 personnels. Avec un scanner, avec un IRM, avec des équipements de pointe. Et on peut souligner que, par exemple, à Villefranche, c'est comme ça, mais c'est la seule ville en France de moins de 20 000 habitants dotée d'un scanner. Et c'est spectaculaire. Mais ça, c'est dû au travail aussi des équipes en place, et des équipes d'administratifs et des équipes médicales. Voilà. C'est un travail de longue haleine. C'est aussi lié à des particularités locales, à une dynamique de territoire, par exemple. Qui fait qu'il se trouve que Villefranche est là le centre d'un bassin de population important, d'un bassin de vie important, qui attire naturellement, enfin dont l'hôpital, en tout cas, attire naturellement une population importante. Voilà.
Alors, vous nous avez indiqué que ce qui paraissait inévitable pour la population, c'est déjà l'utilisation aux urgences. Or, vous m'avez parlé de Villefranche, de Decazeville, de Rodez. Je me souviens qu'il y a une autre sous-préfecture dans l'Aveyron. Elle est loin de nous, hein, mais quand même, elle est proche de Montpellier, mais enfin c'est Millau. Et puis, il y a d'autres villes, je pense à Espalion, à Sainte-Afrique. Je note que par exemple, en Tarn-et-Garonne, il y a un hôpital à Nègrepelisse, quoi, qui est le sixième chef-lieu de canton. Qu'est-ce qu'il en est en Aveyron ?
En Aveyron, il y a des centres de soins qui sont des maisons de repos. Elles sont assez nombreuses, mais ce sont pas des hôpitaux au sens strict. Donc si on mêle tout cela, on a l'impression d'un maillage important. Mais en réalité, bien sûr, centre hospitalier strict, il n'y en a que ceux que l'on connaît bien.
C'est-à-dire les trois, il n'y en a pas à Millau.
Millau, c'est une autre affaire qui est en débat actuellement.
Mais on est là pour débattre, voilà. Monsieur André.
Pour répondre à ce qui était dit sur la confiance ou sur les attentes, je voudrais en deux mots juste mettre en question, au moins en question, cette sorte de concurrence qui là aussi s'instaurerait par le biais de sondages, je ne sais comment, si on fait, bon. Et comme pour accréditer l'idée qu'il y aurait des canards boiteux, des structures en trop, etc. Moi, je trouve ça très périlleux, il faut partir des besoins, et surtout pas se démunir de maternité comme à Descazeville, qui n'est plus qu'un sursis, même si elle est plus fermée. Mais grâce aux luttes. D'autre part, je voudrais, enfin, pour conclure cette brève remarque, dire que cette notion de concurrence, malheureusement, elle se manifeste aussi par le fait qu'on va, dans la nouvelle loi, favoriser les cliniques privées qui sont investies de missions de service public, nouveauté, et qui sont cotées en bourse. Alors, la santé ne doit pas être un marché. Et ces cliniques privées, si elles prennent de plus en plus le pas sur le public, ça va poser des problèmes comme ceux que j'évoque. Parce que bon, si c'est pour enrichir des actionnaires, il faut qu'on se pose la question. Pour revenir au point de départ et m'arrêter, je veux dire que tout ça c'est très lié. On essaye de faire croire qu'il y a, par exemple, dès la loi de Juppé en 95, il était inscrit avec la naissance des agences de santé hospitalière, hein. L'idée de regroupement, de pôle d'activité, c'était déjà en 95, et il était préconisé déjà, évidemment, de déshabiller là où il serait surdoté. On se demande bien qui était surdoté en 95. Voilà, donc je m'arrête. Il y a toute une réflexion là à mener, et des débats publics qu'il faudrait mener, parce qu'il n'y a pas de surdoté, que je sache. Et il ne faut pas qu'on aille dans le sens d'une sorte de compétition entre les services.
Oui, vous mourrez d'envie.
Non, pour rebondir sur l'Aveyron, il y a un gros CH, centre hospitalier de plus de 300 lits, c'est Rodez. 4 centres hospitaliers de moins de 300 lits, qui sont Villefranche, Decazeville, Millau et Sainte-Afrique. Il ne reste plus qu'une seule clinique privée en Aveyron. Et son activité chirurgicale, normalement, va s'éteindre incessamment sous peu, sur la demande de l'ARS. Nous avons deux hôpitaux locaux avec un service de médecine, un hôpital local avec uniquement du SSR qui est à Sévrac. Les deux hôpitaux locaux sont Espalion et Saint-Géniès, avec Cougous. Et enfin, il y a 13 sites de soins de suite et de réadaptation sur l'Aveyron.
Alors, est-ce que c'est un panorama qui paraît moins pessimiste que ne l'était M. Andréotti. Oui, M. Tranier.
Oui, non, là aussi pour réagir sur la prétendue privatisation du système de santé, je ne suis pas d'accord. Et là aussi, on a un exemple
J'espère.
Villefranchois. Puisqu'il se trouve qu'à Villefranche, c'est l'hôpital qui a racheté la clinique privée donc il y a, je sais pas, quelques années. Donc c'est le contre-exemple. Après, pour ce qui est du territoire, une attente, et je crois que la première même attente, en plus de la proximité des populations, c'est celle de la sécurité. C'est très bien d'avoir des hôpitaux, c'est encore mieux qu'ils aient des personnels suffisants, qu'ils aient des personnels formés. Voilà, alors c'est surtout ça qu'il faut regarder, à mon sens, plutôt que de déclarer a priori que personne n'est surdoté et qu'il faut augmenter partout les équipements. ce qui n'est pas forcément réaliste voilà, dans les contextes actuels.
Monsieur Lacroix.
Contexte actuel. Ce que moi je regrette encore, c'est qu'on fait trop souvent de l'hôpital, puisque là on extrapole à l'hôpital public, une analyse comptable et non pas une analyse sur l'efficacité. Alors bien évidemment, il faut travailler à la sécurité. Mais bien souvent, le discours sur la sécurité de nos hôpitaux, le discours sur les sondages d'opinion, de confiance, sont des instruments pour fermer des structures qui ne sont pas considérées parfois comme rentables. Et aujourd'hui, une des exigences de nos concitoyens, c'est aussi, j'en ai pas encore entendu parler, c'est l'égalité d'accès aux soins. Une égalité d'accès aux soins, elle est territoriale, avec la lutte contre les déserts médicaux, qui n'est pas que liées aux hôpitaux de proximité, mais bien plus large. On l'a rappelé tout à l'heure, l'hôpital de proximité, on l'a vu tout à l'heure en écoutant le descriptif sur l'Aveyron, c'est un maillon de l'offre de soins de proximité. L'inégalité d'accès aux soins territoriaux, il faut y lutter contre, et je précise qu'il y a autant, alors là on parle de l'Aveyron, il y a autant de déserts médicaux à la campagne qu'en ville. Et dans certaines villes, on sait qu'aussi l'offre de soins, elle est très faible. Mais l'accès aux soins, c'est aussi l'accès tarifaire. Je tiens à rappeler aujourd'hui aux auditeurs que depuis des années, on nous a mis en place une taxe sur les médicaments, que chaque année, il y a des déremboursements de ces mêmes médicaments, qu'il y a des dépassements d'honoraires qui sont trop fréquents. Je ne fais pas du populisme, mais ils sont beaucoup trop fréquents. Et dans aussi les cliniques privées, non mais on peut regarder l'Aveyron et se dire effectivement, il n'y a qu'une clinique privée qui va fermer. Mais la question de la santé, elle est nationale. Elle est nationale et il y a des dépassements dans les cliniques privées. Donc ce qu'il faut pour avoir un vrai projet sur la santé, c'est remettre l'hôpital public au cœur du système et revoir le mode de financement et la concurrence.
Ça veut dire quoi, au cœur du système ? Parce que ça, c'est la formule qu'on entend, il faut mettre l'hôpital public au cœur du système.
C'est revoir le mode de financement des hôpitaux.
Quel est le système, où est le cœur ?
Mettre l'hôpital au cœur du système, c'est revoir le mode de financement. Tout à l'heure, monsieur André Auty a raison de parler de la concurrence qui existe malgré tout entre les hôpitaux. Ce qu'il faut quand même lutter, même si chacun défend son hôpital, c'est d'essayer d'avoir une offre de soins qui soit répartie sur l'ensemble de notre territoire. Ce qu'il faut revoir, c'est le mode de financement. Ce qui a été mis en place il y a quelques années, et notamment par l'UMP, je suis désolé de le dire, c'est la tarification à l'activité qui induit cette concurrence et qui ne permet pas d'avoir une répartition égale sur le territoire. Pourquoi ? Parce que sur nos territoires, quand on veut, au-delà des services classiques, avoir des services spécialisés, dont parlait M. Moreau tout à l'heure, on essaie d'avoir un praticien qui est spécialisé, par exemple, sur le diabète. On va essayer de le recruter, mais c'est très difficile avec la tarification de l'activité, qui a des systèmes de financement qui sont uniquement comptables et qui ne permettent pas d'avoir...
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'un spécialiste du diabète coûte moins cher, plus cher, qu'il n'a pas assez de clients ?
La réponse, un hôpital, il est efficace quand il y a une équipe médicale dans laquelle tout le monde se retrouve, les praticiens, les infirmiers, les aides-soignants et les agents hospitaliers. C'est comme ça que fonctionne un hôpital, pas en essayant de mettre par-ci, par-là quelques praticiens pour essayer de travailler sur la notoriété. On a vu que très souvent, quand on fait ça, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de lien, de coordination entre l'équipe médicale. Il faut, pour pouvoir avoir des services qui fonctionnent, avoir une équipe dans laquelle le praticien est là suffisamment longtemps et pas ponctuellement, pour pouvoir avoir une cohérence et éviter des fois des dysfonctionnements qui vont nuire à la confiance des patients par rapport au service. Donc, voilà.
Oui, monsieur.
Je vous avais souligné à juste titre la nécessité d'avoir une équipe. Mais là, je dois déplorer, et ça je le déplore depuis des années, on n'a pas formé assez de médecins. Ça encore, ça pourrait s'expliquer, la formation est longue et onéreuse. Mais on n'a pas formé assez de paramédicaux, en particulier d'infirmières. Alors ça, moi, je trouve que ça frise le scandale, parce que on pourrait, maintenant qu'il y a un déficit en praticiens, on pourrait éventuellement déléguer un certain nombre d'actes de surveillance de pathologies chroniques aux praticiens, mais à des praticiens comme des infirmières spécialisées, par exemple, dans le diabète ou spécialisées dans l'insuffisance cardiaque. Et on pourrait comme ça maintenir une population, en fait, en dehors de l'hôpital, même si elle est équilibrée à l'hôpital, elle est maintenue en ville le plus longtemps possible. Et ça, malheureusement, ce relais, il n'a pas été fait. Et je ne vois pas l'embryon du démarrage de... on s'est vu refuser ici à Villefranche la création d'une école d'infirmières. Alors qu'on a un hôpital qui en aurait cruellement besoin. Et on sait bien que si les gens...
Alors où sont-elles formées les infirmières que peut recruter l'hôpital de Villefranche?
Alors, à Rodez, Albi, Toulouse...
Cahors aussi, bon... dans d'autres départements.
Alors que... Enfin, donc, si vous voulez, le problème réside non seulement dans les praticiens, mais aussi dans les paramédicaux et cruellement dans les infirmières. Il faut 4 ans pour former une infirmière. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec les 10 ans d'un praticien, et encore, je ne parle pas des chirurgiens.
Alors, je ne voudrais pas qu'on dérape sur le sujet ultime, qui était justement la répartition de la médecine. Je voudrais qu'on revienne aux hôpitaux. Vous avez parlé d'un maillage, et de ce point de vue, quelle façon ont-ils de pouvoir travailler entre eux? Est-ce que la télémédecine, c'est une fiction, c'est une réalité? À quel point ça fonctionne?
Je voudrais juste revenir une seconde sur la tarification à l'activité qui a été évoquée tout à l'heure et qui, depuis la loi, le plan hôpital 2007, consiste à lier le financement des hôpitaux à leur activité réelle. C'est-à-dire qu'auparavant, chacun fonctionnait avec une dotation globale qui n'était que très rarement remise en cause et quelle que soit son activité, finalement, assez indépendamment du nombre d'interventions que très
elle devait quand même être proportionnelle à son volume. En fait,
c'est
d'une
justement, ce n'était pas le cas. Donc, on arrivait au terme d'une logique de moyens.
C'est pas sur en santé, mais en termes comptables.
Oui, on arrivait au... Enfin, en 2007, on arrive au terme d'une logique par les moyens qui n'avait plus de sens, qui contribue à démotiver les entreprises, les équipes qui finalement n'avaient pas intérêt à avoir une activité importante. Ce qu'a introduit cette tarification...
Pour être bénéficiaire.
Oui, pour ne pas avoir de dépenses et pour finalement avoir des comptes équilibrés. C'est en poussant le raisonnement à l'absurde la réalité de ce que c'était jusqu'à cette époque-là. Et peut-être que les médecins qui sont autour de la table pourront le confirmer. La tarification à l'activité, ça consiste à lier les ressources... Alors partiellement, les ressources des hôpitaux à leur activité réelle. Voilà, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'interventions, ils ont proportionnellement des dotations. Et donc ça permet une gestion plus efficace, bien sûr, des hôpitaux.
Absolument pas. On regarde toutes les crises et toutes les protestations de chefs de service, pardon.
Oui.
Cette loi est un échec déjà. Elle a que 3 ans et elle est déjà un échec.
En fait, est-ce que ça ne veut pas dire que ceux qui font, enfin qui vont diminuer leur intervention une année, ne vont pas être condamnés à la diminuer chaque année et à disparaître?
Non, mais enfin, pour revenir à...
C'est une question que je pose.
Oui, mais juste pour revenir à la crise de l'hôpital et peut-être rappeler ces causes réelles qu'a évoqué aussi le docteur Mort a évoqué les conséquences qui sont en termes un déficit de personnel paramédical et d'infirmières. Le problème de l'hôpital est né de l'application des 35 heures à l'hôpital, c'est le refrain habituel, c'est la vérité. Je vous invite à visiter un hôpital, vous adresser au personnel de l'hôpital.
Vous avez essayé d'évacuer la question qui va être posée là-dessus.
Ça, je l'ai vécu, les 35 heures.
Vous venez d'utiliser le moyen d'éviter la question de tout à l'heure.
On y répondra tout à l'heure.
Non, mais les 35 heures, Madame Aubry avait été formellement, les praticiens hospitaliers du PS avaient formellement contre-indiqué d'appliquer les 35 heures justement à quelque chose qui est moins palpable, qui n'a pas un objectif productif qu'est l'hôpital. Cette entreprise qu'est l'hôpital ne doit pas être gérée comme une entreprise lambda. Et donc on lui avait dit surtout ne pas faire ça et on s'était battu. Moi, je me souviens, pour connaître beaucoup de chefs de service et pour avoir travaillé un petit peu en hôpital, pour avoir des jonctions entre les équipes d'infirmières, et ces jonctions qui permettaient de transiter les messages ont été complètement bannies avec cette histoire des 35 heures. D'ailleurs,
mais ce que vous dites, c'est terriblement angoissant. Ça veut dire qu'il y a des équipes d'infirmières qui ne se relaient pas, qui ne transmettent pas l'information quand elles changent.
Le relais a été plus difficile à faire à partir des 35 heures.
C'est la faute aux infirmières.
Les 35 heures ont aggravé le déséquilibre en personnel. Et on arrive même à des choses particulières. Là, je lisais récemment que les infirmières surchargées de travail comme elles sont, elles préfèrent être moins payées et quitter la profession à 60 ans, continuer.
Parce qu'on peut peut-être prendre en compte la pénibilité de travail. Mais c'est facile et c'est souvent le leitmotiv de l'UMP qui n'a rien à dire de parler des 35 heures.
Je tiens à préciser une chose. Vraiment sur l'hôpital.
Et pour le nouveau centre.
Alors, le nouveau centre et l'UMP sont d'accord sur une chose ce soir, c'est que l'hôpital est une entreprise. Je ne suis pas d'accord. L'hôpital, c'est un service public. Ça ne veut pas dire qu'il faut y faire n'importe quoi et qu'il faut y accepter des gaspillages. Les deux objectifs que nous devons avoir sur le service public, c'est la cohérence et l'efficacité. Bien sûr qu'il faut avoir des bonnes gestions de ce service public-là, mais la vision de la notion de l'entreprise, je ne suis pas d'accord. Quant à la tarification de l'activité, donc vous ne vous voulez pas parler, puisque tous les deux, vos partis appartiennent à la majorité qui a mis en place cette tarification de l'activité, c'est pas la loi en elle-même de 2007, c'est les effets qu'elle a induits qui sont pervers et qui ont pour conséquence, et je ne sais pas si c'était l'objectif, mais qui ont pour conséquence, il faut pas le nier, de mettre nos hôpitaux en concurrence et de fragiliser et de mettre en place un effet pervers qui fait que quand vous avez moins d'argent, l'année d'après, vous pouvez moins investir. Et donc, c'est le cercle vicieux qui conduit certains hôpitaux qui n'avaient pas de raison de disparaître à aujourd'hui être en difficulté, qui fait en sorte que leur équipe se désorganise et au final, qui pénalise qui ? Toujours les patients qui vont devoir faire face à un désert médical de plus.
Moi, je crois que tout simplement, si un patient choisit un hôpital plutôt qu'un autre lorsqu'il a le choix, c'est parce qu'il considère qu'il va être mieux soigné dans cet hôpital-là. Voilà.
Je suis ravi quand vous débattez, vous êtes là pour ça. Mais vous n'avez pas répondu les uns ou les autres à ma question de la façon dont on pouvait mettre en réseau les hôpitaux, que ce soit par les nouveaux moyens de communication ou par des moyens matériels, d'ailleurs, qu'il s'agisse d'ambulances, d'hélicoptères ou d'Internet. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il y a une réalité sur cette mise en réseau ?
Alors, il y a une réalité essentiellement tournée vers les CHU. Parce que la télémédecine, notamment sur Midi-Pyrénées, était mise en place par le professeur Larinque. Ça s'est bien développé en Midi-Pyrénées, mais essentiellement tourné vers le CHU, même si la plupart des hôpitaux qui participent sont éloignés. Et on peut avoir des discussions entre Rodez, Villefranche, Decazeville, Castres et Toulouse, avec un référent à Toulouse qui est là pour les cas très compliqués ou les histoires dont on a eu du mal à
déterminer. Est-ce que c'est organisé ? C'est un confrère qui téléphone à un autre confrère plus structuré que ça ?
La télémédecine est très structurée sur la région Midi-Pyrénées, puisque c'est un réseau informatique et téléphonique qui demande des compétences très particulières et qui coûte très cher en maintenance. Et donc, c'est très bien organisé. Il y a des réunions toutes les semaines, voire plus, pour chaque spécialité. Voire on peut avoir des télémédecines avec d'autres CHU que celui de Toulouse, puisque le matériel permet de se connecter à Montpellier, éventuellement même à Lille. Mais on n'a pas encore de coopération de télémédecine d'hôpital à hôpital de proximité.
Donc ça passe toujours par le CHU.
Ça passe par le CHU. Ensuite, les réseaux se font entre médecins et essentiellement entre médecins. Les rapports entre les médecins des différents hôpitaux.
Mais on peut y voir certainement une perspective d'avenir, enfin un potentiel intéressant pour rapprocher encore des patients, des spécialistes. C'est ça l'idée.
Et trouver une excuse à éparpiller les spécialités sur l'ensemble d'un département, par exemple.
Et c'est pas une excuse, c'est aussi une façon de répondre à un déficit de médecins spécialistes dans certains domaines.
Déficit d'hyper spécialistes dans certains domaines.
Si je vous passe la parole, mais si par exemple aujourd'hui les hôpitaux de Decazeville, de Rodez et de Villefranche vont travailler ensemble probablement sur des sujets comme la maternité justement, c'est pour mettre en place des équipes communes et pour permettre aux trois de fonctionner normalement, quitte à mutualiser certains personnels. Voilà, enfin ça c'est des processus qui sont en cours et qui permettent, qui ont permis de sauver la maternité de Cazier, qui est bel et bien sauvée.
Avant d'aborder pour 5 ans. La médecine dans la ruralité, il faudrait être condamné à le faire assez rapidement, mais on ne peut pas ne pas parler de la maternité de Cazeville. J'ai cru comprendre en lisant la presse rapidement qu'on pouvait considérer qu'elle était entre guillemets sauvée. Est-ce que les uns les autres vous êtes satisfaits, pas satisfaits ?
5 ans, oui. 5 ans, mais c'est vite passé, 5 ans. Moi, je crois qu'on avait posé cette question pour l'hôpital même de Ducasse-Ville. Et bon, je partirai d'une anecdote parce que, comme on le sait, c'est souvent dans les conditions les plus dramatiques que les gens se mettent à réfléchir aux problèmes des choix de politiques de santé quand ça leur tombe dessus. Mais une simple anecdote, pourquoi aller chercher ce problème des 35 heures qui, pour la droite, est l'explication de tous les problèmes du pays. C'est aberrant. Mais je ne vais pas polémiquer.
Bien, quoi, c'est aberrant.
Bien entendu, mais je crois qu'on aurait besoin de beaucoup plus de temps. Et je m'appuierai sur de nombreuses recherches là-dessus. Mais bon, passons. Alors j'en étais à l'anecdote. Lorsque, en plein Paris, quelqu'un qui est un homme valide jusque-là et qui s'écroule et qui attend 7 heures dans une ambulance pour avoir un lit et qu'on le prenne en charge et que dans 27 services de la capitale, on lui répond que c'est bouché partout, je me dis que quelque chose ne va pas. Je me dis pas moi, c'est en lisant ce rapport. Donc, en fait, je crois que pour Ducasse-Ville comme ailleurs, ce n'est pas une question de compétence qui fait qu'on veut sacrifier ceci, tel ou tel centre. C'est parce qu'on a on cultive l'idée, la lubie d'économie qui vont être désastreuses pour le pays, parce qu'un pays qui va bien, c'est un pays dont la population est en bonne santé. Et je remarque qu'on ne forme plus que 2500 médecins. Quand il y en avait 8500 de formés, il y a encore 15 ou 20 ans. Donc alors je crois que pour nos régions, on a besoin de plateaux médicaux dans chaque grand centre qui soit assez complet. Alors la télémédecine, oui, c'est peut-être une piste pour ce qui est dans l'ordre de la coopération médicale et technologique. Mais il ne faut pas se réfugier derrière ce mythe de la médecine à distance. Hein. Parce que je vois, pour terminer, que depuis qu'on ne peut plus consulter les médecins le week-end, eh bien les gens vont aux urgences, et qui coûtent encore plus cher.
Alors, ça nous amène, vous venez de parler de « on ne peut plus consulter les médecins le week-end » et vous venez de dire « on forme N milliers de médecins », c'est-à-dire à peu près, si j'ai bien compris, le tiers de ce qu'on formait il y a 15 ans.
Oui, je me permets de dire qu'on peut quand même consulter des médecins le week-end. Il y a un service de garde qui fonctionne, mais c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'il faut passer par Toulouse et qu'il y a un tri des cas et que beaucoup de patients préfèrent se diriger et attendre, au lieu d'attendre au téléphone, d'attendre plusieurs heures aux urgences. À tel point que... il n'y a pas encore longtemps, quand je faisais des gardes, je leur disais « je suis de garde et adressez-moi les cas de médecine générale qui seraient mieux pris en charge par un praticien généraliste que par un urgentiste ». Tout ne relève pas, toutes les pathologies du dimanche matin en particulier ne relèvent pas d'un urgentiste. Ça, je suis. De prendre le temps de se faire trier sur des critères de gravité, soit par le régulateur du SAMU, soit par le régulateur de médecine libérale, me paraît quand même, je dirais presque, du civisme, quoi.
Alors, ceci étant posé, je crois qu'effectivement c'est important, il n'en demeure pas moins que moi je me souviens qu'il y a de nombreuses années, puisque c'était à la fin des années 70, déjà le ministère de la Santé se plaignait que les médecins ne veuillent pas s'installer dans tel et tel endroit de France, mais on ne manquait pas à proprement parler, enfin on s'inquiétait. Aujourd'hui, chacun d'entre nous voit bien qu'il doit attendre 4 mois pour consulter un spécialiste, qu'il a du mal à choisir son généraliste d'une façon vraiment indépendante, et d'après ce que tout le monde dit, ça va être de pire en pire, et je vois des élus locaux être extrêmement inquiets. Et monsieur Andréotti, et puis hors micro, d'autres m'en avaient parlé, a l'air de dire que, et au fond, Bernard Mort dit la même chose pour les infirmières, mais est-ce que c'est pas la même chose pour les médecins? Il semble qu'on ait un déficit de fabrication, quoi. On ne produirait pas assez de médecins et ça va nous mettre dans un gros embarras. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus, Monsieur Brevet, pour le Mouvement démocrate?
Oui, le déficit en médecins était prévu depuis les années 80, hein, parce que c'est l'époque à laquelle j'ai moi-même passé le concours de médecine, la première année. Et déjà, on avait instauré, enfin, les gouvernements en place avaient instauré.
Alors, c'est les gouvernements ou ce sont les professionnels?
C'est le gouvernement qui l'a mis en place. Alors, à l'époque, ça devait être Monsieur Giscard d'Estaing qui était président, donc plutôt un gouvernement centre-droit. Monsieur Mitterrand est arrivé et a poursuivi dans cette logique de réduire le numerus clausus. Et on a eu l'année dernière une petite remontée parce que effectivement ça commençait à coincer aux entournures. Mais le mal est fait. Le déficit, il est là pour 2015-2025. Et pour le remonter, même si demain le ministère de la Santé décidait que 10 000 étudiants français pouvaient passer la barre de la première année, mais il faudra attendre.
Alors, ça pose deux questions. Est-ce que effectivement le gouvernement va être prêt à faire sauter ce numerus clausus? C'est la première question. Et je me tourne vers M. Tranier, bien sûr.
Oui, j'ajouterais que le nombre de médecins, au problème du nombre des médecins qui est formé, j'ajoute celui de leur choix, de leur lieu d'installation. Puisqu'ils ont tendance à privilégier le sud de la France, la Côte d'Azur, peut-être les grandes villes. Il faudra peut-être imaginer des incitations, et certains l'imaginent déjà, pour faire venir des médecins dans des parties rurales qui tendent à perdre leur médecin de campagne, qui part à la retraite et qui n'est pas remplacé, par exemple.
Un peu comme si on interdisait de pantoufler aux gens qui font les dents, quoi.
Oui, certaines collectivités imaginent de passer une sorte de contrat avec un étudiant en médecine pour lui octroyer une bourse. Durant ses études de médecine, à la condition qu'ensuite il viendra s'installer chez elle. Voilà, c'est un exemple de ce que dans des communes rurales qui considèrent qu'elles ont du mal à attirer un médecin, il peut être fait.
Et est-ce que c'est fait et est-ce que ça fonctionne, monsieur Lacroix?
En fait, peut-être effectivement depuis 20 ans on pouvait prévoir cette pénurie en matière de médecins et de médecins libéraux sur les zones où médicalement absente, où on voit bien que ça concerne à la fois la campagne et la ville. Les mesures d'incitation, elles existent depuis une dizaine d'années. Effectivement, les collectivités locales, des communes, des régions, s'engagent pour essayer de mettre en œuvre des mesures d'incitation, à savoir des subventions qui sont allouées aux jeunes étudiants en médecine qui vont s'engager à rester sur le territoire un certain nombre d'années. Au-delà des subventions aux étudiants, il y a sur l'installation, souvent le local du médecin libéral, souvent le logement où il va vivre. Et aujourd'hui, on a rajouté à ça aussi la question de la majoration. Aujourd'hui, en 2010, 773 médecins ont bénéficié de majoration, ce qui a permis en 2010 d'avoir 15.
On parle de quoi? De la France, de l'Aveyron?
On parle de la France.
770 médecins.
Sauf qu'on attribue des majorations à 700, mais sur des zones très spécifique, on considère que s'il n'y a pas de médecins aux alentours, il y a vraiment, c'est plus qu'un désert médical, il n'y a strictement rien. Et souvent, on essaie de lui lier avec ce que font les collectivités locales sur les maisons médicalisées, on essaie d'avoir des infirmiers et des kinés pour que le médecin qui débarque dans le lieu qu'il ne connaît pas puisse avoir des équipes pour qu'il y ait un minimum de coordination. Ces mesures d'incitation-là, notamment là on parle du national des majorations sur les actes, et ça a permis au final d'avoir 15 nouveaux arrivants. On sait tous, on a entendu des élus qui se sont battus parce qu'ils n'avaient plus de médecins libéraux dans leur commune, dans leur canton, et qui ont essayé de convaincre, et certains ont réussi, un nouveau médecin à s'installer, et au bout de quelques mois, de quelques années, souvent il est reparti. Parce qu'il n'y avait pas le minimum de moyens pour avoir cette coordination-là. Aujourd'hui, les mesures d'incitation, elles sont nécessaires, mais elles ne permettent pas de résoudre le problème des déserts médicaux. Ce qu'on propose, et c'est concret au Parti Socialiste, dans le projet qui a été adopté le jeudi 19 mai pour le changement, sur la santé, la mesure phare, c'est de demander aux jeunes médecins d'exercer dans des zones de santé prioritaires dans les premières années. C'est-à-dire qu'on va passer un niveau supérieur à l'incitation. Parce qu'aujourd'hui, la situation est tellement catastrophique sur une grande partie de notre territoire qu'il faut prendre des responsabilités. Et les responsabilités, c'est d'aller au-delà des incitations qui sont financière et matérielle, mais de demander un minimum de contrepartie qui se fera bien sûr en discussion avec les médecins libéraux, parce que je rappelle que tout ce qui est décidé par le gouvernement, très souvent, c'est lié aux conventions qui sont discutées avec les médecins libéraux. Dans le cadre de cette discussion-là, nous demanderons à ce que les médecins donnent une partie de leur carrière dans les zones qui sont médicalement dépourvues de médecins libéraux, que ce soit à la campagne ou à la ville.
Je pose une question, mais c'est à titre personnel. Hein. Pas mal d'années que je me pose cette question, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas là ce qui vient d'être discuté, c'est ce problème de la répartition des praticiens de santé? Est-ce que ce n'est pas là aussi la limite de la médecine libérale elle-même, comme en tant que système? Est-ce que pourquoi ne pas imaginer des cabinets mutualistes, des formes différentes de structuration du corps médical, autre que libéral? Parce que ça me paraît là forcément plus dans ce cas-là plus facile à traiter à éventuellement. Ce problème.
C'est ma question, parce que pourquoi des cabinets mutualistes auraient-ils plus de facilité à trouver et à attirer des médecins?
Parce qu'un cabinet mutualiste est rattaché soit à des mutuelles, soit à des organisations de santé qui sont collectives, qui sont
générales. Mais des cabinets mutualistes, il y en a eu un, en particulier à De Casseville. Il y avait la médecine de la mine, et les gens, oui, quand ils pouvaient s'échapper de ce système qui était quand même étatisé, ils allaient vers les médecins libéraux. Donc certainement que le médecin libéral apporte quelque chose que n'apporte peut-être pas. Ben, moi, je vous donne l'exemple que j'ai vécu. Oui.
Je ne connais pas le cas précis de ces médecins, de ce que vous évoquez là.
Est-ce que ces médecins seraient aux 35 heures, par exemple? Parce que dans ce cas-là, ça va encore aggraver le problème, en réduisant la présence des médecins, qui bien souvent aujourd'hui dépasse, faut pas se le cacher, ce nombre de travail, d'heures de travail par semaine. L'idée du Parti Socialiste, qui dévoile petit à petit son programme, après 50 milliards d'augmentation d'impôts, on a l'obligation pour les jeunes médecins d'aller...
C'est mieux que 360 milliards de dégrèvements et d'exonérations.
On a l'obligation pour les jeunes médecins... Je vous laisserai la parole, monsieur Androti. On a l'obligation pour les jeunes médecins donc, d'aller dans des zones où ils ne voudront pas aller. Alors, tout de suite, là, ça me fait penser aux jeunes enseignants qu'on contraint à aller enseigner dans les EHPAD et qui, à peine arrivés, ne pensent qu'à une seule chose, c'est de repartir, voilà. Et tout en déplorant, niveau du côté des parents d'élèves, que ces jeunes enseignants-là n'ont pas assez d'expérience pour répondre aux attentes
du terrain. D'un côté, on a des mesures incitatives et on m'explique que ça agit sur 770 médecins. Je ne sais pas combien il y en a en France, mais je veux croire qu'il y en a
aux environs,
100 000.
Aux environs de... Non, mais ça, c'est la mesure nationale. Après, il y a les mesures incitatives locales qui ne permettent pas... C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que l'incitation matérielle, qu'elle soit par la majoration, qu'elle soit par la mise à disposition du local qui va servir de cabinet médical, qu'elle soit par rapport au logement de fonction, qu'elle soit liée par le fait qu'une équipe locale, des élus, aillent chercher très loin, passent leur temps, leur énergie à essayer de convaincre des médecins de venir s'installer, ça ne répond pas suffisamment au problème, mais que partiellement. Et qu'à côté de ces mesures incitatives qui sont nécessaires, mais qui ne résolvent pas la majorité du problème, il faut arrêter, je pense, de se voiler la vérité. Aujourd'hui, il ne faut pas nier le fait qu'aujourd'hui, on a des Français, des patients qui viennent voir les responsables politiques en leur disant « Aujourd'hui, sur notre canton, on n'a plus personne. » Et aujourd'hui, à l'incitation, il faut aller à une table supérieure et que chacun prenne ses responsabilités et demander une contrepartie.
Mais ça passe en premier lieu, si je vous ai bien tous compris, ça passe en premier lieu par une libération du numerus clausus.
Aussi.
Or, j'ai dit tout à l'heure que ça posait deux questions. La première, j'ai pas eu vraiment de réponse, à savoir est-ce qu'il allait véritablement sauter. Et puis la deuxième, c'est si il sautait. On sait très bien ce qui se passe sur les concours. où on ouvre la porte d'un seul coup.
Moi, je ne suis pas pour le fait de sauter le...
On recevait à 18,5 et on se met à accepter à 9. Alors, est-ce qu'on ne peut pas craindre pour la qualité? Oui, M. Mort.
Là, il y a... mais même les hôpitaux ne seraient pas capables de former un nombre trop important.
Un peu de temps, vous voulez dire.
En peu de temps, un nombre aussi important de médecins. Il y a, on ne peut augmenter rationnellement le numerus clausus que... progressivement. Mais là où on peut agir, c'est, on en a parlé un petit peu, la télémédecine, faire un peu plus de télémédecine et la, surtout la pratiquer hors de l'hôpital, ce qui n'est pas actuellement le fait. Et deuxièmement, il faut pouvoir déléguer, c'est ce que l'Académie de médecine avait proposé, de pouvoir déléguer un certain nombre de surveillances de pathologies chroniques à des infirmiers spécialement formés. Comme on a formé des médecins des infirmiers anesthésistes, il faudrait former des infirmiers pour le suivi cardiologique.
Et en vertu de quoi les infirmiers accepteraient-ils mieux la ruralité que les médecins ?
Mais si vous arrivez dans un lieu où il n'y a pas beaucoup de médecins et que vous avez une équipe de quelques infirmiers et infirmières formés pour vous épauler et que vous avez une structure de matériel type logement, type cabinet, je pense que les gens y viendraient. Le problème des personnels de santé actuellement, c'est qu'on fait des nombres d'heures explosifs et qu'on est sollicité de plus en plus, que ce soit par le soin, que ce soit par l'administration, que ce soit par les contrôles.
Votre travail, c'est d'ailleurs alourdi considérablement, oui.
Alors moi, je voudrais juste rebondir sur le fait de ne pas casser le numerus clausus. Pour former un médecin, il faut 10 ans. Il faut 10 ans. Donc il faut qu'il soit formé pendant les 6 premières années au CHU, parce que c'est là que sont formés les externes. Ensuite, il passe l'internat pour choisir une spécialité. Et maintenant, la médecine générale est une spécialité. Et ensuite, il fait ses stages dans les hôpitaux, soit du CHU, soit les hôpitaux de proximité. Actuellement, je ne sais pas si à Villefranche, il y a beaucoup d'internes. Sur le centre hospitalier de Rodez, il doit y avoir entre 10 et 12. Si vous augmentez le numerus clausus, dans 6 ans, vous en aurez 20. Ils viendront travailler sur l'hôpital de Rodez. Il y en aura 10 ou 15 à Villefranche. Ils viendront travailler sur l'hôpital de Villefranche. Ils ne seront pas tous spécialistes. Beaucoup seront des généralistes. C'est une façon de les attirer sur le territoire de santé. Certains restent. On en connaît quelques-uns sur l'hôpital de Rodez qui sont installés.
Je croyais qu'il y avait des règles ordinales qui ne le permettaient pas.
Quand on est étudiant, on n'est pas coincé par la règle ordinale, puisqu'on est interne, on n'est pas médecin, on n'est pas thésé. Donc on se forme dans la région, on se forme sur l'hôpital, ensuite on peut aller se former au cabinet du généraliste du même territoire de santé pour voir comment créer des liens entre ce jeune médecin et son confrère qui le reçoit et l'hôpital, puisqu'éventuellement il était déjà allé à l'hôpital, et il s'installe sur la région. C'est arrivé 2-3 fois dans les 3-4 dernières années. Mais c'est pas souvent qu'on a 10-12 médecins en formation sur les hôpitaux.
Si je dis qu'en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on a des solutions qui vont rendre la chose moins pénible, mais qu'on ne sera pas sorti de l'auberge avant 20 ans et encore en prenant les mesures maintenant. Est-ce que vous me contredirez?
Oui, j'ai l'impression qu'on fait appel à des médecins de l'Est aussi, pas mal, hein, où est-ce que je me trompe, pour essayer...
Des médecins étrangers, généralement.
Pas mal, mais je dis là, c'est pas du tout péjoratif, c'est simplement que je l'ai connu. Et il me semble qu'à ce moment, donc, le constat du déficit est réel, puisque je remarque que ça s'accroît.
Oui, on crée le déficit d'hôpitaux dans les pays de l'Est.
Oui, alors c'est un paradoxe, c'était les pays riches qui créent le déficit dans les pays moins dotés. À Villefranche, nous avons un nombre de praticiens étrangers, même hors CEE, qui est remarquable, quoi.
Eh bien donc, on arrive au terme de nos entretiens, table ovale sans ellipse. Aujourd'hui, je recevais Lionel Lacroix pour le Parti Socialiste, Laurent Tranier pour l'Union pour un Mouvement Populaire, M. André Autti pour le Parti Communiste Français, Front de Gauche, Emmanuel Brevet pour le Mouvement Démocrate et Bernard Mort pour le Nouveau Centre. Le prochain table ovale sans ellipse sera à Rodez et vraisemblablement avec comme sujet les communications plus ou moins routières et plutôt plus que moins. Donc, à dans un mois. Merci, et c'était bien sûr Claude Deuzin qui essayait de réguler tout ça.
CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.